Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
L'objectif n'étant pas que vous deveniez des leaders à la fin de la semaine, parce que vous ne serez pas des leaders à la fin de la semaine. Vous êtes déjà peut-être des leaders, quelque part. Par contre, ça va vous provoquer quelque part pour vous aider à devenir d'excellents leaders. Mais ça va mettre des années. Faire un leader prend des années et des années et des années et des années. Mais peu importe. L'important, c'est que vous soyez sur le bon chemin. Parce que le pire que j'ai jamais vu dans ma vie chrétienne, c'est quand on tourne en rond. Vous savez, vous êtes là, vous tournez en rond. Vous savez, tourner en rond, qu'est-ce qu'on fait? Quand on tourne en rond, on dépense de l'énergie. Hein. On a l'air d'avancer, mais finalement, on n'avance pas. Par rapport au point géographique où on est, on n'avance pas. On se fatigue, et on tourne en rond. Ça veut dire que finalement, on va nulle part. Quelqu'un qui tourne en rond va nulle part. Et le pire dans la vie chrétienne, c'est de ne pas être focalisé là où Dieu veut qu'on soit focalisé. Ça, c'est terrible. Moi, pendant des années, ça s'est passé dans ma vie spirituelle. Je tournais en rond, pourtant je pensais avancer, et je n'avançais pas. Et quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux par rapport à certaines choses, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, je suis resté là-dedans, à tourner en rond, à ne pas avancer, alors que je pensais avancer, vous voyez. Et c'est une illusion. Et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à vous focaliser là où il vous faut que vous vous focalisiez. Donc, il y a un leadership divin. On a abordé un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir dessus. On va directement embrayer sur la première loi. Ça s'appelle la loi du couvercle. La loi du couvercle, première loi du leadership qu'on va étudier. Comment devenir un excellent leader? Il y a des lois, nous le savons. Nous sommes dans le royaume de Dieu, oui, mais il faut que nous apprenions à connaître les lois du royaume. Et à appliquer ces lois du royaume contre les lois des ténèbres. Satan est le gestionnaire de la terre, je vous le rappelle, il n'est pas le propriétaire. Toi non plus, tu n'es pas ton propriétaire. Tu appartiens à Dieu parce que tu lui as donné ta vie, mais par contre, tu es le gestionnaire de ta vie. Donc ce qui va se produire dans ta vie, la façon dont ta destinée va être accomplie, ça dépend de toi. La loi du couvercle, en fait, la loi du couvercle, c'est ce qui va nous limiter ou nous empêcher d'aller plus haut. Ce qui va nous limiter ou nous empêcher d'aller plus haut. On va voir ça. Ça, c'est une loi très importante. Quelque chose qu'on va découvrir. Ce qui nous limite ou ce qui nous empêche d'aller plus haut. Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous ne pouvez pas réussir pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas réussir pour la gloire de Dieu sans avoir une habilité à diriger. Vous ne pouvez pas réussir pour la gloire de Dieu sans avoir une habilité à diriger. L'habilité, c'est amener les choses à se produire. L'habilité, notez que l'habilité, c'est amener les choses à se produire. Ça veut dire que l'habilité, ce n'est pas un rêve. L'habilité, c'est la puissance à amener les choses à se produire. Il y a des choses que Dieu vous montre, et l'habilité, c'est d'amener ces choses à la réalité. Voilà. Ça rejoint un peu la foi, d'ailleurs, quelque part. Mais pas seulement. Pas seulement. C'est important, parce que je vous dis, beaucoup de gens ont des grands rêves, mais leurs rêves sont mis dans des tiroirs des années plus tard, et après ils sont emmenés avec eux dans leur tombe. Donc il va falloir que vous appreniez à développer vos aptitudes de leader, développer ces aptitudes de leader. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de développer nos aptitudes de leader. Il va falloir développer nos aptitudes de leader. Et nous allons découvrir qu'il y a ce qu'on appelle des couvercles. Des choses qui nous empêchent souvent de développer nos aptitudes de leader. Plus un leader est habile, notez que plus un leader est habile, plus il va être efficace. Plus un leader est habile, plus il va être efficace. L'efficacité, ça veut dire littéralement amener le résultat désiré. L'efficacité, c'est amener le résultat désiré. Si vous êtes leader, vous avez une vision. Si vous avez une vision, vous avez des objectifs. Donc obligatoirement, il va falloir amener ces objectifs à être réalisés. Par exemple, tu es pasteur d'une église, tu as des objectifs. Tu dis voilà, dans les 3 prochaines années, nous devons faire ça, ça et ça. Dans les 5 prochaines années, voilà. Dans les 10 prochaines années, nous devons acquérir notre bâtiment. Par exemple, c'est un objectif. Nous devons avoir une telle croissance. Nous devons faire ça, ça et ça. Nous devons établir tel et tel département, etc., etc., etc. Bien sûr, il faut écouter le cœur de Dieu, qu'on soit bien d'accord. Là, on n'est pas en train de parler de choses humaines réalisées avec la puissance humaine. Mais si Dieu t'a donné une vision de créer une église, c'est qu'il y a des raisons. Maintenant, il faut de l'habileté. Entre un pasteur qui échoue, il y a beaucoup de pasteurs qui échouent. Moi, je rencontre beaucoup de pasteurs frustrés. Beaucoup de pasteurs frustrés. Je dois dire qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que je rencontre qui ne sont pas épanouis. Il y en a que je rencontre qui sont épanouis, je dis gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans des frustrations terribles, 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 par rapport à leur ministère. Et justement, souvent, ils ont des couvercles. Donc, si tu es dans le ministère ce matin et que tu t'aperçois que les choses n'avancent pas comme tu voudrais qu'elles avancent, eh bien, tu vas découvrir quelques petits secrets qui vont t'aider énormément. L'objectif, c'est de t'aider. L'objectif, c'est que tu puisses regarder les choses en face et t'amener à changer tes situations. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Nous avons cette puissance, par la puissance du Saint-Esprit et par la foi, à changer nos situations. Donc, ton efficacité va dépendre de ton habileté, c'est-à-dire d'amener les choses à se produire. Et souvent, notre habileté, elle est coincée. Par quoi ? Par des couvercles. Ce qu'on appelle des couvercles. Des couvercles, en fait, ce sont des choses qui nous empêchent d'aller plus haut. Un couvercle, c'est fait pour quoi ? Pour couvrir quelque chose. Et ça l'empêche de sortir de la boîte. Et il y a des couvercles dans notre leadership. Nous allons les étudier. Et nous verrons qu'il va falloir identifier ces couvercles dans votre vie, c'est-à-dire ce qui vous empêche d'aller plus haut. Et il va falloir aussi les enlever. Les enlever. Les identifier et les enlever. C'est très important. Et il y a 2 types de couvercles. Il y a les couvercles externes. Les couvercles externes. Nous verrons des circonstances, notre passé, nous verrons ça. Notre environnement familial, l'éducation, etc. On va en parler. Il y a des couvercles externes, mais il y a aussi des couvercles internes. Donc rappelez-vous, les couvercles, ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer, d'être plus habiles. Il y a des couvercles externes dans notre vie et des couvercles internes. Nous allons donner des exemples, ne vous inquiétez pas. Et ces couvercles, ils ne s'enlèveront jamais d'eux-mêmes. Ce n'est pas des choses qui partiront comme ça. Il y a des choses qui sont comme des obstacles devant vous. Et vous dites, mais à cause de ça, je ne peux pas avancer. À cause de cela, je ne peux pas avancer. Et donc, il va falloir que tu apprennes à enlever toi-même ces couvercles. Et nous verrons qu'il y a certains couvercles, Dieu va nous envoyer des gens pour les enlever dans nos vies. On verra ces rendez-vous divins à des moments clés de notre vie. Ça, c'est très important aussi. Des personnes que tu vas rencontrer au bon moment, au bon endroit, et qui vont te donner des solutions toutes simples. Et tu diras, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé plus tôt? Et tu vas faire ça, ou on va te présenter quelqu'un qui va t'aider dans un domaine qui va correspondre exactement à un couvercle que tu as et qui va t'enlever ce couvercle. Donc, certains couvercles, on va être obligé de les enlever nous-mêmes. D'autres seront enlevés par d'autres personnes que Dieu va mettre sur notre vie, qui vont nous aider d'une façon divine. On appelle ça des rendez-vous divins. Parce que Dieu a des rendez-vous divins dans notre destinée. Mais là encore, ils ne se produisent pas par hasard. Ces rendez-vous divins, ce sont des personnes clés au bon moment que Dieu nous envoie, qu'il faudra savoir reconnaître et qui vont nous donner un coup de pouce, un coup de main pour justement, hop, faire enlever certaines choses qui nous empêchent d'avancer ou nous connecter avec des personnes clés qui vont nous aider à aller beaucoup plus loin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors souvent, les couvercles nous donnent des excuses. Les couvercles nous donnent des excuses. Et souvent, les excuses, c'est quoi? C'est le blâme et les plaintes. Le blâme et les plaintes. Ça, c'est tout à fait classique. On va blâmer notre passé. Ah, si j'étais de telle famille, comme ce pasteur-là, ou comme ce businessman, lui, il a tout eu dans les mains avant de commencer. D'accord. Toi, tu n'as pas tout. Eh bien, tu vas créer tout. Voilà la différence. Vous savez, il y a une chose qu'il faut que vous appreniez. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et dans mon ministère. Apprenez à ne pas réagir aux situations, mais apprenez à répondre aux situations. Ouh là là, ça c'est puissant. Quand tu commences à comprendre ça dans ta vie, là tu vas commencer à comprendre quelque chose. Apprenez à ne pas réagir aux situations, mais à répondre aux situations. Réagir, c'est tu as quelque chose qui t'a blessé. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réagir par rapport à ça, avec tes sentiments, avec tes façons de voir, donc avec ta chair. Et c'est là où tu vas te planter. C'est là où tu vas te planter. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Par exemple, un pasteur peut réagir d'un seul coup, parce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui commence à faire des histoires dans son église, et qui s'appelle serviteur de Dieu. Il peut réagir, mais aussi il peut se poser la question, pourquoi est-ce que des gens, des escrocs, arrivent à avoir une influence dans mon peuple, dans le peuple que le Seigneur m'a demandé de diriger? Il peut réagir mal, de la chair, en disant, il y a telle personne ici, là, etc. Il peut commencer à faire tout un remous. Ou alors, il peut être plus intelligent. Il peut répondre divinement. Il peut se dire, je vais implanter des choses dans mes brebis pour que plus jamais elles se fassent escroquer. Vous voyez la différence? Des gens qui commencent, Dieu leur a parlé par rapport au business, ils ont une vision de devenir des businessmen, mais ils sont nés dans la pauvreté. C'est un couvercle. Tu dis oui, si j'avais un capital, alors je. Non. Ça, ce sont des excuses. Les Israélites se sont toujours donné des excuses quand ils étaient dans le désert. Et c'est pour ça qu'ils sont morts dans le désert. Si dans la vie, tu apprends à arrêter de te donner des excuses, tu vas comprendre quelque chose de la part du Seigneur. Arrête de donner des excuses. Quand tu échoues, ne dis pas, j'ai échoué parce que j'avais pas ce qu'il fallait au départ, parce que j'ai pas rencontré les bonnes personnes, parce que j'avais prié, Dieu n'a pas répondu, parce que... Non. Ça, ce sont des excuses qu'il faut jamais que tu te donnes. Les gens qui échouent se trouvent toujours des excuses pour leurs échecs. Les gens qui réussissent comprennent comment Dieu fonctionne et son royaume fonctionne. Des obstacles, tu en rencontreras. Plus ta vision est grande, plus les obstacles seront grands, plus tes défis seront grands. Ne réagis pas aux situations, réponds aux situations. Tu viens d'une famille qui était complètement par terre, ton père est un soulard, il tabassait ta mère, etc. Dis ça, jamais ce sera comme ça dans ma famille. Je vais répondre divinement. Et moi, je vais marier avec quelqu'un. J'attendrai le temps, mais quelqu'un qui sera vraiment dans les mentalités de Dieu. Et je créerai une famille très différente de d'où je viens. Vous voyez, ça c'est répondre aux situations. Ne réagissez pas aux situations, répondez aux situations. Apprenez ces mentalités, c'est des mentalités divines. Jésus n'a jamais réagi, il a toujours répondu aux situations. Regardez bien les évangiles, il a répondu aux situations. Répondre aux situations, c'est amener des solutions divines à des problèmes humains. Oh, saisis ça s'il te plaît. Répondre aux situations, c'est amener des solutions divines aux problèmes humains. C'est ça, répondre, selon Dieu. Réagir, c'est, t'es provoqué dans ta chair, donc tu réagis selon la chair. Et celui qui sème selon la chair, hein, moissonnera la corruption, c'est ce que la Bible nous dit, c'est-à-dire la destruction. Si dans tes situations, les choses sont détruites, c'est que t'as une responsabilité. Arrête de blâmer les autres. Arrête de blâmer les circonstances pour tes échecs. À chaque fois que tu fais ça, tu as tort. Parce que tu réagis par le blâme. Et tu n'as aucune vision et tu n'accompliras jamais rien dans ta vie avec ce genre de mentalité. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence, je traduirai par le renouvellement des mentalités. Arrête de blâmer les autres pour tes échecs. Arrête de blâmer toutes les circonstances pour tes échecs. Mais prends ta destinée en main et commence à dire, Seigneur, c'est vrai, je viens de ça, j'ai vécu ça. Mais je vais répondre selon ta mentalité par rapport à cette situation. Quand tu fais ça, vraiment tu vas transformer les choses et tu vas grandir. Vous savez, vous ne pouvez pas grandir sans souffrance. Ça, je tiens à vous le dire. Mais il y a des souffrances divines. Il y a une école de la souffrance. La souffrance, ce n'est pas être malade, être pauvre, être stupide et être inéduqué. Ce n'est pas ça la souffrance. La souffrance, c'est percer dans les choses du royaume de Dieu et voir que l'ennemi essaye de t'empêcher d'avancer. Donc par la persécution, par des mensonges sur toi, par toutes sortes de choses, où il va essayer de t'empêcher d'avancer, de percer. Ça, c'est la souffrance selon Dieu. Et cette école de la souffrance te transformera. Elle te fera porter des fruits absolument extraordinaires. Je n'ai pas le temps de vous faire une étude sur la souffrance, mais c'est vraiment très, très intéressant. C'est absolument intéressant. Alors, ces couvercles, souvent, on se donne des excuses, on blâme, on se plaint. Alors, nous allons regarder deux personnages qui ont eu deux destinées très différentes. Ces deux personnages, c'est David et Saül. David et Saül, ces deux personnages bibliques qui avaient normalement la même destinée. C'était quoi? De devenir roi. Vous êtes d'accord? Maintenant, il y en a un qui a échoué lamentablement et l'autre qui a réussi. Et pourtant, quand on regarde leur vie, leur arrière-plan, normalement, celui qui avait le plus de chances de réussir, c'était Saül. Sans aucun problème, sans aucun problème. Saül, la Bible nous dit que c'était un beau garçon, bien grand, qui venait d'une bonne famille. C'était quelqu'un qui venait d'une famille équilibrée. Il avait un grand potentiel. Et quand on regarde David, David, lui, il avait un arrière-plan épouvantable. Il venait d'une famille, vraiment, petite famille. Il n'avait aucune éducation. Parce que quand il était déjà jeune garçon, qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait des brebis. Il n'a jamais eu d'éducation, David. Et David devait ressentir un sentiment de rejet par rapport à sa famille. On a un exemple tout à fait typique. Vous savez, quand le prophète Samuel a été appelé par Dieu, il prévient donc le père de David, Isaïe. Isaïe amène tous ses enfants, tous ses fils, sauf qui? David. Samuel passe devant chaque garçon et Dieu lui dit « Non, ce n'est pas celui-là. » Il continue « Non, ce n'est pas celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. » Il termine tous les garçons et Samuel est un peu dans la confusion parce qu'il dit « Seigneur, tu m'as envoyé là, tu m'as parlé. » Et c'est là où il dit à Isaïe « Il n'y aurait pas un autre là ?» Et on dit « Ah oui, il y a le petit là-bas, le petit abruti entre guillemets là. Celui qui garde les brebis là, mais c'est même pas mon fils, tu vois, je ne l'ai même pas amené. » Vous ne pensez pas que David ressentait un sentiment de rejet? Certainement. David était rejeté par sa famille. D'ailleurs, si vous en voulez une autre preuve, quand il y a eu l'histoire avec Goliath, Isaïe envoie David amener de la nourriture pour ses grands frères qui étaient au combat devant Goliath, en tout cas devant l'armée des Philistins. Et le grand, qui s'appelait Eliab, il commence à voir David et il le méprise. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, toi? David était méprisé de sa famille. David avait un arrière-plan qui était vraiment mauvais. Il venait d'une famille qui n'était pas riche, une famille avec plein d'enfants. C'était le petit méprisé de la famille. Il n'avait pas d'éducation. Peut-être que quelqu'un se retrouve ce matin dans ce domaine-là. Ben, sache une chose, ce n'est pas ça qui va déterminer ta destinée si tu es intelligent selon Dieu. Ça, il faut que tu le saches. Il y a un grand homme de Dieu qui est en Ouganda qui s'appelle Robert Kayanja. Vous en avez entendu parler, j'espère. C'est un homme de Dieu qui a un ministère de guérison absolument incroyable, international. Il est connu maintenant dans le monde entier. Quand vous regardez l'histoire de Robert Kayanja venait, il était complètement inéduqué, et il venait d'un quartier des plus pauvres de Kampala en Ouganda. Cet homme aujourd'hui, c'est, je dirais, en Afrique de l'Est, c'est pratiquement le ministère ou c'est le ministère numéro un. Il a construit une église qui s'appelle Miracle Center, un très beau bâtiment, en Ouganda. Dieu lui a donné une faveur exceptionnelle. Il est très souvent sur TBN, donc la télévision internationale américaine. Et franchement, il est connu dans le monde entier, cet homme. Et c'est vraiment un homme de Dieu super, extraordinaire. Mais il vient d'où? D'un petit quartier populaire, avec aucune chance de réussir. Il y a peut-être parmi nous quelques David et quelques Robert Kayanja. Ou quelques Davidette et quelques Robertette. Donc, quel que soit votre arrière-plan, ne dites jamais « parce que j'ai ça, alors je ne pourrai pas aller là ». C'est un couvercle. C'est un couvercle. Un couvercle terrible. David et Saül venaient donc avec des arrière-plans très différents. Donc, ne regarde pas de là où tu commences, regarde toujours là où Dieu te veut. C'est très important. Tu dois méditer sur ça parce que c'est quelque chose qui parfois retient tellement les chrétiens. Les clous au sol. Le diable leur ment tellement là-dessus. On ne fera jamais rien de toi. Peut-être que tu as été éduqué dans une famille où ton père a dit « t'es qu'un imbécile, de toute façon on ne fera jamais rien de toi ». Et tu as donné ta vie à Jésus parce que finalement, tu étais tellement rejeté, tu étais tellement désespéré que tu as donné ta vie au Seigneur. Tellement tu te sentais mal à cause de tout ce qu'on t'a fait. Ce n'est pas ça qui doit déterminer ton futur, ce qu'on t'a fait. Tu dois prendre ta destinée en main. Si tu ne veux pas le faire, rien ne se passera dans ta vie. Tu seras là, tu iras au ciel parce que tu as reçu Jésus. Mais toute la belle destinée que Dieu avait pour toi ne se produira pas. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas ta destinée en main. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Les gens qui se lamentent tout le temps, les gens qui se plaignent tout le temps, ne changeront jamais. Quand vous regardez Joseph, dans son histoire, vous ne verrez pas une seule fois où il va se plaindre. Pas une seule fois. Relisez l'histoire de Joseph, à partir de Genèse 37. Pas une seule fois, Joseph va se plaindre en disant « Mais ce que la femme de Potiphar m'a fait, c'est honteux !» Et c'était honteux. Elle l'a planté, pouf, paf. Il s'est retrouvé par terre. Il commençait un peu à s'en sortir. « Ce que mes frères m'ont fait, c'est scandaleux. Le jour où je vais les revoir, je vais leur couper la tête. » Non, Joseph était beaucoup plus intelligent que ça. Beaucoup plus intelligent que ça. Très, très intéressant. L'histoire de Joseph est très intéressante, très passionnante au niveau de la mentalité. Vraiment, très, très intéressante. Joseph n'a pas décidé de laisser son arrière-plan. Pourtant, il avait un bon arrière-plan, lui, au départ. Sauf qu'après, il était tellement orgueilleux, bouffi d'orgueil, à 17 ans. « Moi, je vais vous montrer les visions que le Seigneur m'a données. » Regardez un petit peu. Alors, il y avait une étoile qui était au-dessus des 11 autres étoiles. C'est qui les 11 autres? Essayez de deviner. Et ma gerbe, moi, elle était au-dessus de vos gerbes. Et vous vous prosterniez devant ma gerbe. C'est qui les 11 gerbes? Et le père qui avait créé toute une jalousie en favorisant son petit préféré, Joseph, parce qu'il venait de sa femme préférée. Et là, on voit aussi la perversité de la polygamie, les dégâts que ça faisait. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, mais je ne comprends pas, dans l'Ancien Testament, Dieu permettait la polygamie. Oui, mais regarde aussi les dégâts de la polygamie. Soyons clairs. Ils n'étaient pas sauvés, et en plus, les dégâts. Quand vous voyez par exemple David, sa famille, son fils Absalom, qui s'est rebellé contre lui, et gravement, qui a créé quasiment une guerre civile. Pourquoi? Parce qu'il y avait des histoires entre les demi-frères et demi-sœurs. Soyons clairs, tout ça c'est de la destruction, c'est du désordre. Désordre qui amène évidemment tout un tas de problèmes. Alors, les deux, David et Saül, pour revenir à eux, ont reçu les conseils d'un homme de Dieu. Les deux ont reçu le conseil d'un homme de Dieu, c'était Samuel. Que ce soit David, que ce soit Saül, tous les deux ont eu le conseil du prophète Samuel. Sauf qu'il y en a un qui a écouté et l'autre qui a été sourd. Un qui a écouté et l'autre qui a été sourd. Et Saül, vous voyez, Samuel a joué un rôle prédominant dans la vie de Saül. Il était là pour l'aider. Saül n'a jamais voulu écouter Samuel. Ça a toujours été une catastrophe. Quand Dieu place quelqu'un à côté de toi, au-dessus de toi pour t'aider, dans ta destinée, ne le méprise pas. Si tu le méprises, tu es en pleine rébellion et tu pourras gâcher ta destinée. Ça, c'est classique. Quand on regarde ce que Saül a fait et ce que David a fait, Saül, c'était un leader minable. Saül n'a jamais été capable de faire une armée correcte. Saül n'a jamais été capable de faire d'Israël un pays. Saül était là, moi je suis le roi. Vous devez m'obéir. Ça, c'est être minable au niveau du leadership. Nous verrons que ce n'est pas la position qui détermine le respect, mais que le respect, il y a la loi du respect. Le respect, c'est quelque chose que tu gagnes. Ce n'est pas ton costume, cravate et ton titre de pasteur qui fait de toi quelqu'un de respectable. Amen. Ce n'est pas parce que tu t'appelles directeur que tout le monde doit se courber devant toi. Oui, ils vont se courber devant toi quand tu es là. Mais quand tu vas sortir du bureau, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ça montre que les gens n'ont aucun respect. Aucun respect de ta personne. Ça veut dire que tu marches avec un leadership de terreur, de minable. C'est ce que Saül faisait. Saül était un minable. Il n'a jamais su changer. David, lui, il a créé une armée. Il a fait d'Israël une vraie nation. Il a écouté ce mentor qu'il avait, Saül. Et c'était pas facile. Samuel. C'était pas facile pour lui. Les deux ont fait face à de sérieux défis. Par exemple, ils ont eu Goliath en face d'eux. Les deux ont eu à faire face à de sérieux défis. Entre autres, ils ont eu Goliath. Quelle a été la réaction de Saül devant Goliath? Quelle a été la réaction de David devant Goliath? C'est très simple. Saül était un trouillard. Quand il a vu qu'il y avait un petit gamin qui voulait aller se battre contre le géant et qui n'avait aucune chance dans le naturel, il l'a laissé faire. On appelle ça un poltron en français. Un poltron, c'est quelqu'un qui a la trouille. Quand ça commence à chauffer un peu, il s'écarte. C'est un trouillard, Saül. David a eu le même défi, mais il l'a relevé avec la puissance de Dieu. Dans le leadership, nous avons des défis, et pas des moindres parfois. Si tu es un leader, il va falloir que tu ne fuis pas devant les situations où il y a des défis. Il va falloir que tu apprennes à prendre tes responsabilités. Et là, Dieu, si tu es vraiment dans la mentalité de leadership divin, tu vas vraiment amener la puissance de Dieu dans des situations et les gens vont dire « Waouh !» Mais dans le leadership, il y a des défis, et pas des moindres, de sérieux défis. Et Saül a été incapable de relever les défis. Par contre, c'était un roi, un chef, un orgueilleux. David était quelqu'un de très simple. Et il a été capable de relever les défis. Ensuite, tous les deux se sont retrouvés devant des choix de changer. Le choix de changer. Et là aussi, souvent le couvercle de certains leaders, c'est ça. Le choix de changer. Un leader fait toujours des erreurs. Le leader qui dit « j'ai jamais fait une erreur », ce n'est pas un vrai leader. Nous faisons tous des erreurs, des gaffes parfois, des sérieuses. Des choses qui nous coûtent cher, très cher. Dans le leadership, il y a toujours des erreurs que nous faisons. Celui qui a peur de faire des erreurs, ce n'est pas un leader qui pourra grandir. Parce que dans le leadership, il y a un facteur risque, comme dans les assurances d'ailleurs, et les banquiers. Il y a un facteur risque. Maintenant, ce n'est pas... L'important, ce n'est pas les erreurs que tu fais, l'important, c'est comment tu vas gérer tes erreurs. Que quelqu'un m'entende. C'est comment tu vas gérer tes erreurs. Saül a fait des erreurs. Comment il a géré ses erreurs? Par l'excuse et la rébellion. Quand il a présenté les sacrifices, alors que ce n'était pas son onction, il avait une onction royale, il n'avait pas d'onction de sacrificateur. Il a dit à Samuel, oui mais le peuple, ah c'est le peuple. Le peuple faisait des pressions, tu étais en retard. En fait il a blâmé le prophète. Et il a blâmé le peuple pour son erreur. Il ne s'est jamais repenti, il s'est endurci. C'était vraiment un couvert qu'il fallait qu'il change. David, il a péché. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Le pire des péchés de David, c'est quoi? D'avoir tué le mari de Bathsheba. Et après, d'épouser cette femme. C'était une très grave erreur. David a tué quelqu'un, a fait tuer quelqu'un. Mais David s'est repenti. S'est repenti. Un leader fait des erreurs. Tout leader fait des erreurs. Vous ne pourrez jamais voir quelqu'un qui a été un grand leader et qui vous dira, vous savez, moi, je n'ai jamais rien fait, j'ai jamais fait aucune erreur dans ma vie. Ah, ah. Ils vous diront tous, oh là là, j'ai fait des erreurs. Si j'avais su à l'époque, tout le monde vous dira ça. Tout bon leader sera capable de dire, j'ai fait des erreurs. Et j'ai fait de graves erreurs. Mais Dieu m'a pardonné, Dieu m'a fait grâce, et j'ai pu me relever. Mais sachez que les erreurs, plus nous sommes élevés dans le leadership, plus nos erreurs nous coûtent cher. Plus nos erreurs nous coûtent cher. C'est sûr que quand tu as très peu d'influence, tu fais une gaffe, ça ne coûte rien, ou il y a 3-4 personnes qui vont parler. Si tu as un très très grand ministère où tu touches des millions de personnes, fais une gaffe, il y aura des millions de personnes qui vont parler sur toi. Abraham, il y a eu des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui ont lu la Bible et qui ont su qu'il a fait un Ismaël. Vous aimeriez avoir votre nom comme ça? Et à chaque fois qu'il y a des gens qui ouvrent Genèse et qui lisent les quelques chapitres où Abraham a été vers sa servante et a voulu réaliser le plan de Dieu par ses propres forces. Il y a des centaines de millions de gens, peut-être 1 milliard de gens qui ont lu la Bible, si ce n'est plus, et qui ont lu l'histoire d'Abraham, la gaffe d'Abraham. Vous aimeriez que la gaffe, votre péché, soit marqué quelque part, comme ça, que des centaines de millions de gens lisent? Moi, je ne crois pas. Pourtant, Abraham, c'est un homme qui est nommé partout dans la parole de Dieu. Il a su se relever de son erreur. Tous les leaders font des erreurs. Tous les leaders, parfois, pêchent. Et ça coûte très cher, nous verrons cela. Nous en parlerons, il y a une loi sur ce sujet-là. Donc, on voit l'attitude très différente de Saül et de David. Saül a un bon arrière-plan, mais il va faire des erreurs comme tout leader, et il a un mentor. David a un très mauvais arrière-plan, il a un mentor, le même mentor que Saül, c'est-à-dire le prophète Samuel, mais il sait se relever de ses gaffes et de ses erreurs. Quand vous regardez ces deux destinées, qui a réussi, qui a échoué? David a réussi, malgré ses erreurs. Saül a lamentablement échoué. Ils avaient tous les deux le même appel. Il y en a un qui a échoué lamentablement, alors qu'il avait toutes les chances de réussir. L'autre avait beaucoup moins de chances de réussir, mais il a réussi. Malgré un parcours difficile, c'est David. Pourquoi? Parce qu'il a su enlever les couvercles. Il a su enlever ses couvercles. Notez que chaque leader doit faire face à ses couvercles. Chaque leader doit faire face à ses couvercles. Chaque leader doit faire face à ses couvercles. Le premier type de couvercle, c'est les couvercles des circonstances extérieures. Les circonstances extérieures. Les circonstances extérieures. Ce sont des couvercles qui sont indépendants de notre volonté, mais qui forment une excuse. Ce sont des couvercles qui sont indépendants de notre volonté, mais qui forment une excuse. Si souvent pour beaucoup de leaders, ces couvercles sont indépendants de notre volonté et qui si souvent forment une excuse pour beaucoup de leaders. Alors c'est le « Ah, si j'avais eu !» ou si j'avais connu, ou si j'étais de. Vous voyez, quand quelqu'un commence à dire « Ah, si j'avais », ça veut dire qu'il a un couvercle. Si j'avais eu la chance de, si j'avais pu faire telle étude, si j'avais, si j'étais de tel pays, si j'étais blanc, si j'étais noir, si j'étais jaune, si j'étais ceci, ah, ça ce sont des excuses. Vous savez, j'ai l'occasion de voyager en général sur 3 continents, et j'ai vécu sur 3 continents. J'ai vécu en Amérique du Nord, j'ai vécu en Europe, et j'ai vécu aussi, bien sûr, et je vis en Afrique. Et à chaque fois que je voyage, il y a toujours des excuses que j'entends. Si vous êtes sur le continent ici, très souvent, les pasteurs vous diront « Ah, mais tu sais très bien ici les conditions de pauvreté dans lesquelles nous sommes. » Couvercle. Vous allez en Europe, ils vous disent « Ah, les Européens, les Bazungu, ah, ils ne veulent pas se convertir, c'est très difficile, nos églises sont petites. » Couvercle. Vous allez aux États-Unis, on va vous dire « Ah, je suis juste à 300 mètres de chez TD Jakes. Tout le monde va chez TD Jakes et personne va chez moi. » Ben, c'est normal, pourquoi tu t'es mis à côté de TD Jakes? Tous les gens se donnent toujours des excuses pour leur échec. Mes parents étaient pauvres, mes grands-parents étaient pauvres, donc je ne peux rien faire. Non, tu peux faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, tu as été racheté de la malédiction. Et la pauvreté n'a plus rien à faire chez toi. Si tu sais appliquer les lois du royaume. Ce n'est pas l'argent qui est un obstacle. Si c'est un obstacle pour toi, ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Faisons bien attention, frères et sœurs. Tu as un manque d'éducation. Tu n'as pas eu, entre guillemets, la chance d'avoir des parents qui t'ont payé une école décente. Mais ce n'est pas grave. Tu as toute ta vie pour t'éduquer. Moi, personnellement, vous savez, j'ai très très peu de diplômes. Hein. Je n'ai pas de licence. J'ai fait quelques temps à l'université, mais pas vraiment une université en direct. J'ai jamais été à l'université. Hein? J'ai fait un stage en électronique il y a bien des années. J'ai fait un stage en informatique il y a bien des années. Et c'est tout. Et ces stages ont duré même pas une année chacun. Vous savez, les gens les plus riches de cette planète, il y a un magazine qui s'appelle Forbes. Vous avez entendu parler de Forbes? Ils répertorient les plus riches de la planète. La majorité des multimilliardaires de la planète ont à peine l'école secondaire comme diplôme. Les diplômes, c'est bien. L'éducation, c'est bien. Mais l'éducation ne fera pas dépendre de ta destinée. C'est mieux d'avoir beaucoup d'éducation. Mais vous pouvez vous auto-éduquer. Moi, personnellement, je me passionne pour étudier les ministères, pour savoir qui fait quoi dans ce monde. Quand il y a un nouveau ministère quelque part, je cherche d'où il vient, ce qu'il a fait, pourquoi il en est là aujourd'hui. C'est très intéressant, parce que je suis dans le ministère. Si j'étais dans le business, je me passionnerais pour savoir pourquoi il y a tel ou tel businessman qui a réussi, et pourquoi tel ou tel a échoué. Passionnez-vous pour la destinée des autres aussi. Étudiez les destinées des autres. C'est intéressant. Arrêtez de vous confiner sur vous-même. Aujourd'hui, on a Internet. Au travers d'Internet, c'est passionnant. Moi, je passe des heures et des heures sur Internet, non pas pour aller faire des trucs à droite à gauche, je passe souvent des heures sur Internet pour étudier les ministères. Et pour dénicher les ministères. C'est très intéressant. Parce que je suis dans le ministère. Mais je serais dans n'importe quel autre domaine, je me passionnerais pour d'autres choses. Je me passionne aussi pour la science. Je me passionne aussi pour beaucoup de choses que je vais faire au Burundi. Mais ça, c'est d'autres sujets. Mais, vous voyez, faites attention. Ne choisissez pas parce que vous venez de tel ou tel endroit. Ou alors, moi je viens du Grand Kassai, là où il y a les diamants. Regardez, quand je souris, il y a des diamants ici. Mais non, si tu viens d'un arrière-plan où il y a beaucoup de richesses, gloire à Dieu, tant mieux. Loue le Seigneur pour les bonnes circonstances. Mais toutes bonnes circonstances ne viennent pas de Dieu. Et ne blâme pas Dieu pour tes circonstances mauvaises, ni les autres. Change tes circonstances. C'est ça qu'il faut que tu apprennes. Réponds à tes situations. Le diable avait une mauvaise destinée pour toi, mais Dieu en a une excellente. Maintenant, il va falloir que tu travailles là-dessus. Si tu changes, que tu es transformé à l'intérieur, ça se manifestera à l'extérieur. Le problème, c'est que les gens veulent voir l'extérieur se changer sans changer à l'intérieur. C'est pas comme ça que ça marche. La façon dont ça fonctionne, c'est que tu es transformé à l'intérieur et obligatoirement, ça va se manifester à l'extérieur. Le problème, c'est que les gens prient pour que l'extérieur change. Non ! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois changer d'abord, toi, et après, tes circonstances et ton environnement va changer. Tu vas attirer les meilleures personnes que Dieu va t'envoyer parce que tu es en train d'attirer la faveur de Dieu. Tu vas attirer les finances. Tu vas attirer la réussite pour la gloire de Dieu parce que ta mentalité est sur Dieu. Maintenant, si tu veux blâmer toute la terre pour tes échecs, tu n'avanceras jamais. Débarrasse-toi de cette mentalité. Donc la pauvreté, ou alors la richesse, ou l'éducation, ou l'âge. Il y a des gens qui disent, mais je suis trop vieux pour commencer. Non, tu n'es pas trop vieux. Dieu veut une longue vie sur la terre pour toi. Même si tu as plus de 50 ans, peu importe, tu as encore plein de choses à faire devant toi. Les meilleures années. Moi, je sais que j'aurai une longue vie sur la terre parce que je le sais, parce que c'est promis dans la parole de Dieu. Je le confesse. Vous me verrez encore à 95 ans et je ne serai pas. Je serai en forme comme ça, comme aujourd'hui. Parce que moi, je crois à la longue vie sur la terre et à la bonne santé divine. Je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il est capable encore d'aller très loin. Et que plus j'avance en âge, plus je mûris dans le Seigneur. Et plus je mûris dans le Seigneur, plus je peux être une bénédiction pour les autres. C'est pas compliqué. Maintenant, si tu veux partir à 40 ans, qu'il soit fait selon ta foi. Mais c'est pas la mienne. Il y a plein de choses qu'on peut faire, alors qu'on a 60, 70 ou plus encore. On peut faire plein de choses intéressantes pour le Seigneur. Parce que justement, on a toute une expérience derrière nous. Entre-temps, il va falloir que tu grandisses. Et les âges, là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est des âges où tu dois tellement travailler sur toi pour que ça produise. Il y a un temps dans ta vie où tu vas produire énormément. Mais pour ça, il va falloir que tu travailles en toi. Tellement. Joseph, lui, il aurait pu se plaindre de toutes les circonstances extérieures. D'ailleurs, il les avait plus ou moins provoquées. Je vous rappelle, son orgueil avait provoqué la jalousie de ses frères. Et il s'est retrouvé de fils, petit chouchou, de papa du prince Jacob, à être en train de nettoyer par terre dans la maison de Potiphar comme un esclave avec un salaire de 0 plus 0 égal la tête à Toto. Il n'a rien eu. Il n'avait rien. Mais il ne s'est pas plaint. Il a changé. Il a compris qu'en fait, les mauvaises circonstances, il les avait attirées. Joseph a attiré ces mauvaises circonstances. Et Dieu, il a su utiliser cette école. Dieu l'a formé au travers de cette école de l'humiliation, provoquée par son caractère. Étudiez bien la vie de Joseph. Il y a beaucoup de gens qui étudient mal la vie de Joseph. Ils pensent, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ça. Non, non, non. Joseph s'est mis à attirer des lois qui l'ont amené à être humilié. Mais Joseph a su se relever de son humiliation parce qu'il a travaillé en lui-même et il a compris qu'il avait fait de graves erreurs. Et quand il était chez Potiphar, Joseph n'était pas chez Potiphar en disant « Hé Potiphar, tu sais moi, je m'appelle Joseph, je suis le fils de Jacob. Tu sais, mon père il va venir avec 300 soldats et il va te casser la figure. Jamais je nettoierai par terre. » Est-ce que Joseph a dit ça? Il a fait son boulot avec excellence. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que ce qu'ils ont dans les mains aujourd'hui, ils le méprisent. Ah, quand je serai prédicateur, ah, quand je serai ceci, ah, quand je serai un grand businessman, que je roulerai dans ma Mercedes ML350. Ok, mais pour l'instant, tu roules avec tes chaussures. Et bientôt, il faut que tu les changes parce qu'il y a des trous dans tes pneus. Est-ce que vous êtes avec moi, hein? J'essaye d'implanter en vous des choses. Faisons bien attention, frères et sœurs. Là où tu es, développe une mentalité d'excellence. Enlève ces couvercles pourris que tu as. En te disant, le jour où je serai, alors je ferai ceci ou cela. C'est comme des gens qui viennent voir le pasteur. Pasteur, tu sais, moi je suis appelé à prêcher. Je suis appelé à prêcher. Et le pasteur dit, d'accord, il y a les toilettes à nettoyer. Quoi, pasteur? Non, je t'ai pas compris ce que je t'ai dit. Moi, je suis appelé à prêcher. Moi. Ça, c'est les petits jeunes de 20 ans. Moi. Vous savez, quand les gens n'arrêtent pas de parler de moi, ils ont un problème. Comment vous dites en lingala? Je dirais pas en sangala, parce que c'est un poisson là-bas chez nous. En lingala, vous dites comment moi? C'est trop compliqué. On dit mimi en kiswahili. Jewe en kirundi. Mais il y a des gens, ils sont tout le temps en train, quand ils sont là, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche sans dire « moi ». T'as un problème avec ça, mon frère, ma sœur. Débarrasse-toi un peu de tout ça et laisse Jésus s'élever en toi. Joseph, il ne s'est pas plaint. Dans la prison, il a fait son boulot. Pourtant, il a été trahi quand il était en prison. Il se disait chez Potiphar « ah, ouf, ça y est, je commence à relever la tête ». Il avait à peine relevé la tête que le diable a essayé de faire une chose, de lui écraser encore la tête. Et là, ce n'était pas de sa faute. Mais il y a des moments où tu es vraiment en train de changer de mentalité et le diable te fera un sale coup. Utilise ça, ne réagis pas, réponds. Joseph a répondu. Dans la prison, il s'est comporté d'une façon impeccable. Parce que Joseph avait une mentalité d'excellence. Le prophète Daniel avait une mentalité d'excellence aussi, avec ses trois amis. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient une mentalité d'excellence. Ça commence par une mentalité d'excellence. Si tu as une mentalité de petit, si tu as une mentalité de plaintard ou de plaigneur ou de tout ce que tu veux, qu'on ne pourrait pas dire en français, peu importe, tu comprends ce que ça veut dire. Si tu as une mentalité de blâmeur parce que tu n'as pas eu ceci, tu n'as pas eu cela, tu échoueras dans ta vie. Tu ne seras jamais un bon leader. Le jour où tu seras en position, tu seras minable. Tu vas faire pire que les païens. Comme le disait mon ami Raoul Waffo qui vraiment est sorti d'une pauvreté extrême et aujourd'hui c'est un multimillionnaire en dollars, il est en Côte d'Ivoire, c'est un Camerounais, et il disait, le pauvre, tu ne sais pas ce qu'il a dans le ventre tant que tu ne lui as pas donné de l'argent. Tant qu'il a 100 francs là, il ne peut pas exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Le jour où il a des millions, tu vas savoir qui il est. Écoute bien. Le jour où tu es en position, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que tu vas profiter de dire, ah finalement, c'est mon tour? Vous voyez, quand on voit beaucoup de chefs d'État ou beaucoup de gens qui sont comme ça, qui prennent le pouvoir, qui ont été humiliés, etc., c'est ce jour-là, ce n'est pas leur discours avant les élections. C'est le jour où ils vont parler, ils vont être en position. C'est là où on va voir qui ils sont. Parce que là, ils ont le pouvoir de s'exprimer. C'est comme quelqu'un qui a une promotion à son boulot. Un simple employé, d'un seul coup, devient directeur. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Un espèce de dictateur pourri qui va te venger? Joseph n'était pas comme ça. Joseph avait enlevé ses couvercles à l'intérieur. Deuxième type de couvercle, les couvercles internes. Les couvercles internes, ce sont les couvercles dont nous nous rendons le moins compte parce que ce sont des couvercles de caractère. Ce sont des couvercles de caractère. Ce sont des couvercles dont nous nous rendons très peu compte. Là, nous avons des difficultés avec ces couvercles-là. Vous savez pas pourquoi? Parce qu'il y a 6 ou 7 milliards d'êtres humains qui nous voient de l'extérieur. Et nous, nous sommes les seuls qui sommes à l'intérieur de notre boîte. Il n'y a que toi qui ne te vois pas de l'extérieur. Donc en fait, tu ne te vois pas agir. Tu ne te vois pas, puisque tu es dans la boîte, tu es dans ton corps. Par contre, les autres te voient. Ils te voient agir, ils te voient te comporter. Et eux sont souvent capables de te dire, hey, il y a quelque chose qui ne va pas là chez toi. Mais non, tout va très bien. Si, si, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, tout va très bien, moi. Les couvercles internes. Ça, ça peut nous amener vraiment dans des gros problèmes. Ce sont les traits de caractère. Les traits de caractère pourris. Quand tu es leader, tu diriges les autres. Donc c'est du relationnel. C'est du relationnel. Et là, dans le relationnel, il te faut des qualités. Il te faut des qualités. Et malheureusement, un certain nombre de leaders ont des problèmes internes de caractère gigantesques. Ça, ça peut arriver à tout le monde quand tu commences dans le leadership. Mais il va falloir absolument que tu ôtes ces couvercles-là, ces travers de caractère qui sont pourris. Je vais en donner un certain nombre. Tu ne pourras jamais réussir sans un entourage proche. Nous verrons la loi de l'entourage proche. Un bon entourage proche. Tu ne pourras jamais réussir si vraiment tu es là, tu ne sais pas faire avec les gens au niveau relationnel. Si tu es quelqu'un de conflictuel, par exemple. Vous savez, il y a des leaders, ils arrivent à diviser des amis. C'est extrêmement mauvais, ça. Des gens qui sont amis, ils commencent, le leader vient, commence à s'occuper d'un certain nombre de gens, et il commence à diviser les amis. Waouh ! Quelqu'un de conflictuel. Si tu es leader, tu ne peux pas être conflictuel. Si partout où tu passes, ça pète dans les relations, c'est que tu as un problème sérieux. Tu n'auras jamais d'amis proches. Vous savez que les dictateurs sont les gens les plus isolés. Ils ont tous toujours peur de leur entourage. La première chose qu'un dictateur fait quand il prend le pouvoir, c'est éliminer tous les dangers potentiels, les personnes potentielles, qui travaillaient avec celui qu'ils ont renversé en général. Parce qu'ils ont peur, parce que ce sont des leaders insécures. Et malheureusement, des fois, il y a des pasteurs insécures qui écartent toute personne qui potentiellement pourrait être un danger pour eux. Il y a des businessmen insécures. Il y a beaucoup de leaders. Il y a des pères aussi insécures parfois. Un leader doit comprendre les autres. Si tu ne comprends pas les autres, ça veut dire que tu as un couvercle aussi. S'il ne sait pas tenir sa langue non plus. Il y a des leaders qui ne savent pas tenir leur langue. Des pasteurs à qui on confie des choses de la vie personnelle des gens. Et ils vont en parler partout. Et la personne qui a été chercher conseil entend ça de la bouche des autres. Quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue. Quelqu'un qui s'emballe aussi à la première rencontre. Vous voyez, il est là, un leader qui rencontre quelqu'un, d'un seul coup, « Ah, tu vas faire ça, je vais te mettre en position de ceci, etc., etc., je vais t'embaucher pour ça, etc., etc. » Il s'emballe tout de suite. Ça, c'est très mauvais. Saül avait des couvercles internes. Saül était quelqu'un de paranoïaque. Vous savez ce que c'est que la paranoïa? C'est croire que tout le monde vous veut du mal. Tout le monde est méchant. Il y a des gens, il y a des leaders comme ça. Ils sont épouvantables, ces leaders. Des leaders comme ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient auprès d'eux, il dit « Ah, celui-là, attention, il est dangereux. » Saül était paranoïaque, très paranoïaque. Quelqu'un a dit qu'il n'y a même pas 10% des êtres humains de ce monde qui sont foncièrement mauvais, foncièrement mauvais. Les 80-90% autres, peut-être ne déploient pas le meilleur d'eux-mêmes, mais ils ne sont pas foncièrement mauvais. Quelqu'un qui est foncièrement mauvais, c'est quelqu'un qui veut détruire les autres. Saül était paranoïaque. En David, il n'a pas vu un futur successeur. Il a vu un ennemi. Quelle stupidité. En son fils Jonathan, il voyait aussi un ennemi. Saül était un homme isolé. C'est classique de certains leaders paranoïaques. C'est extrêmement mauvais. Ça, c'est un couvercle. Voir tout le temps le mal chez les autres. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Maintenant, nous devons avoir du discernement, soyons clairs. L'amour n'est pas faible. L'amour ne permet pas n'importe quoi, n'importe comment. Jésus n'a jamais permis cela chez ses disciples. Il y a des gens qui sont coléreux, par exemple. La colère. J'en ai encore pour 5 à 10 minutes et après, on fera une pause encore. Ça passe tellement vite. La colère, la jalousie aussi. Très mauvais, ça, chez un leader. Être jaloux. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont jaloux aussi. Qui posent beaucoup de conflits dans leurs églises, dans leur entourage. Et par jalousie, ils vont casser la réputation d'un serviteur de Dieu gratuitement. J'en connais, et pas des moindres. C'est vraiment dommage, c'est triste. Jalousie, compétitivité aussi souvent. L'orgueil, bien sûr. L'orgueil. Donc ça, c'est des traits de caractère dans les couvercles internes. Quand vous avez ce genre de traits de caractère, parfois il y a l'amour de l'argent, parfois il y a toutes sortes de gens, en fait toutes sortes de mauvaises mentalités. Tout ce que le monde a pu nous forger. Et qui sont en nous, dans notre caractère. Quand tu es leader, ça va ressortir, ça va se multiplier. Tes défauts se multiplient quand tu es leader. Parce que tu as des pressions. Donc si tu ne manages pas cela, si tu ne changes pas dans des mauvais traits de caractère, et rappelez-vous que vous devez construire votre vie sur les trois piliers, la parole, l'onction et le caractère. Là, on parle caractère. Dans le leadership, on va parler caractère. Donc, si tu ne fais pas attention à tes mauvais traits de caractère, quand tu es leader, plus tu vas monter, plus ça va ressortir. Et plus ça peut être dangereux pour ton leadership et la vision que le Seigneur t'a donnée. Il y a du travail en nous, frères et sœurs. Couvercles internes. On continue. Dans les couvercles internes aussi, il y a le manque de pratique du leadership. Ça, c'est un couvercle aussi. Le manque de pratique du leadership. On a vu les couvercles internes de caractère. Un couvercle interne aussi, c'est le manque de pratique du leadership. Parfois, il y a des gens qui disent « Mais moi, j'ai jamais été leader. » Oui, tu n'as jamais été leader, maintenant tu vas apprendre. Oui, mais si je fais des erreurs. Mais tu feras des erreurs. C'est normal. Tu feras des erreurs. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il faut apprendre de ces erreurs, il faut se corriger dans ces erreurs. Tu dois te corriger dans tes erreurs. Si tu ne te corriges pas dans tes erreurs, c'est dangereux. Mais tu ne dois pas avoir peur de faire des erreurs. Tout leader fait des erreurs, c'est normal. Par contre, tu ne dois pas faire trop d'erreurs, parce que plus tu fais des erreurs, plus tu vas entamer ta destinée. Il y a une chose que tu n'arriveras jamais à récupérer, c'est le temps perdu à récupérer tes erreurs. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Il y a des gens, Catherine Kuhlmann, qui a eu un ministère absolument extraordinaire, dont Bénigne a reçu l'onction quand elle est morte, même s'il ne veut jamais le reconnaître, mais c'est tellement évident. Catherine Kuhlmann a fait une grave erreur. Elle s'était mariée un jour à quelqu'un qui était déjà marié. Et son entourage avait dit « Fais attention, le type n'est pas clair ». C'était un évangéliste. Elle avait une très belle église au Colorado. En quelques années, il y avait 2000 personnes. C'était une femme. À l'époque, dans les années 1930, c'était rare, exceptionnel de voir une femme à la tête d'une église. Et Dieu avait béni son ministère. Et il y a eu cet évangéliste qui est arrivé, qui prêchait dans son église, un beau gars qui se disait ne plus être marié. Et elle est tombée dans le piège. Et pendant huit ans, elle s'est retrouvée complètement par terre. Dieu l'a restaurée. Vous savez, quand nous faisons des erreurs, ça fait mal. Mais Dieu nous restaure quand on a un bon cœur. Mais il y a des années qu'on va perdre. Pendant 8 ans, son ministère a été complètement par terre. Elle a perdu son église. Tout de suite après son mariage, les gens ont senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Elle a caché son mariage, elle est à son église, imaginez-vous. C'était une catastrophe. Et elle n'a pas mesuré les conséquences de ses décisions. Et ce qui s'est produit après, c'est que pendant 8 ans, elle a été dans l'ombre. Perdu son église, elle n'était plus dans le ministère. Lui prêchait à droite et à gauche. Et à chaque fois que les gens savaient leurs histoires de mariage, les pasteurs ne voulaient plus les recevoir. Et un jour, elle était obligée de partir. Et Dieu l'a restaurée. Mais c'était des souffrances. Vous savez, parfois nous faisons des erreurs qui nous coûtent très cher dans le leadership. Très très cher. Très cher. Mais Dieu n'est pas le Dieu d'une seule chance, frères et sœurs. Dieu est le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance, de la xème chance. Sinon Moïse ne serait jamais devenu le meilleur leader de l'Ancien Testament. Moïse a fait une gaffe, une très grave gaffe, de vouloir réaliser la vision que Dieu lui a donnée par lui-même. Et il a tué quelqu'un. Il s'est retrouvé 40 ans dans le désert à cause de ça. Ces 40 ans, il n'a jamais pu les récupérer. Par contre, au bout de 40 ans, il était brisé. Ça voulait dire qu'il n'était plus prêt à faire la volonté de Dieu par ses propres forces et il dépendait de Dieu. Et Moïse est devenu le plus grand des leaders de l'Ancien Testament. Ne crachez jamais sur quelqu'un qui a fait une erreur, frères et sœurs. Faites attention, parce que peut-être qu'un jour ça t'arrivera aussi. Vous savez, les gens, et même des prédicateurs qui n'arrêtent pas de dire « Oui, un tel, il a fait ceci, et voyez, je m'en doutais, je vous l'avais dit. » Et ils parlent comme ça à sa congrégation. Jamais un pasteur ne doit nommer un autre pasteur qui a fait des gaffes. Ne le faites jamais, c'est une erreur qu'il ne faut jamais faire. Nominativement, ne le faites jamais. Parce que peut-être qu'un jour, cette gaffe ou une autre gaffe va croiser ton chemin et les gens te feront la peau ce jour-là. Alors là, ils diront, plus vous avez semé des paroles mauvaises sur les autres, plus vous récolterez ça un jour. Nous n'avons pas à juger les autres. Et il y a des gens qui font de graves erreurs. Je sais que ce n'est pas très pentecôtiste ce que je vous dis, mais ce n'est pas une raison. Je sais que parfois les pentecôtistes sont très durs par rapport à ça, en disant qu'à partir du moment où quelqu'un fait une erreur, c'est terminé pour lui, sa vie est finie. Non, Dieu est un Dieu, le Dieu de la deuxième et de la troisième chance et de la xème chance. Maintenant, tes erreurs vont te coûter cher, ça c'est clair. Il y a un prix pour nos erreurs, il y a un prix pour nos péchés, c'est clair. Dieu nous pardonne, mais il y a un prix de restauration, il y a un temps de restauration. Et parfois, les gens ne sont pas très tendres. Mais je pourrais vous donner exemple sur exemple de gens que Dieu a relevés après leurs erreurs. Alors, troisième type de couvercle interne, on est dans les couvercles internes encore. Bien sûr, le manque d'un exemple ou le manque d'un mentor. Manque d'un exemple ou d'un mentor. Et là aussi, ça nous limite beaucoup. Mais ce n'est pas une excuse. Il y a des gens qui disent non, parce que moi je n'ai pas eu de mentor comme ce pasteur ou comme ce businessman ou comme telle ou telle personne, alors je ne pourrai jamais arriver là-haut. Ne dis jamais ça. Par contre, fais attention parce que Dieu parfois met sur ton chemin des mentors potentiels qui vont t'aider dans certains domaines. Pas forcément qui vont te former de A jusqu'à Z, mais parfois, il va falloir que tu reconnaisses ces personnes. C'est des personnes qui vont te tendre la main à un moment où tu en as vraiment besoin, mais si tu es trop orgueilleux, tu vas dire non, je vais faire cavalier seul. Je vous rappelle, les serpents ne vivent pas en société. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'esprit d'indépendance n'est pas un esprit biblique. Et malheureusement, nous tombons souvent dans ce piège-là. Surtout dans les églises indépendantes, où chacun fait sa petite sauce, et le jour où il se rebelle contre son pasteur, il va faire une église à côté. Ça, c'est très mauvais. Les gens qui démarrent leur ministère dans ce genre de choses, ils ne vont pas aller loin souvent. Ils auront de sérieux problèmes. Sauf s'ils se corrigent, mais les gaffes sont déjà faites. Alors maintenant, troisième type de couvercle. C'est vrai que je vous en avais donné deux au départ, mais il y en a trois précisément si on les détaille bien. Les internes, les externes et les couvercles qu'on ne peut pas enlever nous-mêmes. Troisième type de couvercle, les couvercles que nous ne pouvons pas enlever nous-mêmes. Alors les couvercles que nous ne pouvons pas enlever nous-mêmes, c'est parfois il y a des moments où Dieu va nous propulser. Nous avons avancé, mais il y a des choses qui ne sont plus de notre ressort. Là, Dieu doit intervenir. Par exemple, vous vous rappelez de l'histoire avec David et Jonathan. Il y avait une amitié particulière. Jonathan, c'était le fils du roi Saül, imaginez-vous, qui était roi, et Jonathan savait que David allait prendre la succession de son père. Et il voyait que son père disjonctait complètement, faisait n'importe quoi. Et David et Jonathan se sont liés d'amitié. Vous vous rappelez de cette histoire ? Et Jonathan a été quelqu'un qui a pu enlever un couvercle, le couvercle de la mort pour David. Parce que si David retournait dans la maison de Saül, Saül avait déterminé de le tuer. Et grâce à Jonathan, la relation que Jonathan avec son père, Jonathan savait que Saül, son père, voulait tuer David. Et il a dit à David, non, ne va pas là-bas. Si tu reviens, ça va être fini pour toi. Il y a des gens parfois que Dieu mettra sur votre route qui vous connecteront à des gens qui vous permettront d'aller beaucoup plus haut, d'un seul coup. Mais ça, c'est des choses que l'on attire. Ce ne sont pas des choses qui viennent du jour au lendemain, ce sont des choses qu'on attire. Et ne recherchez pas cela. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de tourner autour des gens d'influence pour essayer de grappiller leur influence. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est la mentalité du monde. Laisse Dieu agir dans ton leadership. Laisse-le faire. Fais ce que tu as à faire. Tu attireras les meilleures personnes. Si toi-même, tu deviens une personne divine avec la mentalité de Dieu, les meilleures personnes, tu les attireras autour de toi. Les rendez-vous divins, tu les auras. Ça va se créer automatiquement. Tu n'as pas besoin de forcer ces choses-là. Il y a trop de gens qui forcent les choses. Comme ils forcent les choses, ou ce sont des opportunistes. C'est terrible. Il y a beaucoup de sujets. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les opportunistes. Un opportuniste, c'est quelqu'un qui regarde plusieurs possibilités et il prend ce qu'il y a de meilleur pour lui au moment présent. Mais il ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. Et les opportunistes ne réussissent jamais dans leur destinée. Ce sont des gens qui toujours essayent de faire une chose, c'est, ils regardent, ils disent, tiens, lui me propose ça, lui me propose ça, lui me propose ça. Tout de suite, qu'est-ce que je peux gagner le plus? Allez, c'est lui. Hop, et ils y vont. Mais ils ne regardent pas si ça vient du Seigneur. Ou ils estiment que comme c'est des bonnes circonstances, ça vient du Seigneur. Les bonnes circonstances ne viennent pas toutes du Seigneur, je tiens à vous le dire.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseigne-moi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.